Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Alors, une émission un peu particulière ce soir parce que je me retrouve un peu seul aux manettes. Pascal Essérick et Philippe Christel sont exceptionnellement absents. Enfin, pour tout vous dire, ils sont en vacances. Mais je vais être bien entouré car nous allons avoir dans le studio deux journalistes que vous connaissez bien pour parler du dossier du dernier numéro d'Éléments. J'ai en face de moi, il est déjà là, c'est François Bousquet, essayiste et journaliste à la revue Léman. Bonsoir François.
Bonsoir Patrick.
Et nous aurons d'ici quelques minutes Olivier François qui nous rejoindra et qui est aussi journaliste à la revue Éléman. Alors, la revue Léman a fait un dossier plus que brûlant, vu qu'elle a décidé de parler du communautarisme. Et elle titre « Faut-il haïr le communautarisme ?» avec comme sous-titre « De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Sarkozy, pourquoi la classe politique en a peur ?» Alors, pour ouvrir le débat, mon cher François, je trouve que c'est le sous-titre le plus intéressant, car il y a effectivement une condamnation quasi générale, avec forcément des nuances, mais de la droite à la gauche, c'est le même refrain, combattre le communautarisme. C'est clairement un héritage de la République, les communautés, elles n'existent pas.
Elles ont été bannies en 1789, hein. Elles l'avaient été déjà un peu au préalable. Hein. En effet, il y a une unanimité quasi générale, on peut parler même d'union sacrée contre le communautarisme. Hein. Pour paraphraser le dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert, à l'entrée communautarisme du dit dictionnaire des idées reçues, c'est tonner contre et si possible tonner contre bruyamment. Le mot est importé, vient du lexique nord-américain. Donc c'est un terme qui est polysémique, hein, qui a plus de sens et qui a plusieurs sens et des sens parfois contradictoires. Hein. Pour les anglo-saxons, le terme est apparu au début des années 1980 en réaction à la philosophie libérale des droits subjectifs, de l'autonomie de l'individu et d'une philosophie contractuelle du contrat social. Hein. C'est dans le courant de pensée des communautariens que le terme a vu le jour. Hein. Évidemment, il a traversé l'Atlantique et en France, il a heurté de plein fouet la République une et indivisible. Hein. Et le modèle assimilateur, qui était le modèle de la République depuis le 19e siècle. Hein. Le dit modèle assimilateur a fonctionné en un sens pour m'inspirer des propos et du coming out, vous pardonnez le terme anglo-saxon, de Julien Rochedi, tout récemment, un coming out communautariste, hein, qui est inédit puisque Julien Rochedi était l'ancien responsable du FNJ, Front National de la Jeunesse. Hein, et je fais mien ces propos. En l'occurrence, le dit modèle assimilateur a fonctionné au prix d'une amnésie collective. Il a fonctionné, pour ainsi dire, intramuros et extramuros, hein, jusqu'à la fin de la Troisième République. Intramuros, en intégrant par capillarité, mais souvent par violence, les provinces à l'État-nation français, et extramuros jusqu'aux années 1930, jusqu'aux années 60, mais ça fonctionne déjà plus, avec l'apport des vagues migratoires belges, italiennes, polonaises, puis hispanique. Hein. Pour que ce modèle a cessé de fonctionner massivement dans les années 60, je le fais pas mien. Hein. Je répète que ce modèle peut fonctionner, mais c'est au détriment d'une amnésie.
On reviendra
sur les causes. Mais manifestement, il a totalement échoué. Et ça, les Français, de Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Nicolas Sarkozy, se refusent à admettre de déchiffrer le nouveau principe de réalité qui est le nôtre face à l'afflux d'une migration extra-européenne massive. Hein, qui s'intègre difficilement, pour ne pas dire qu'elle ne s'intègre pas. Donc on s'est réfugié dans le déni, dans la rhétorique incantatoire d'une assimilation qui est plus que grippée, qui est aujourd'hui défunte, hein, et on se refuse à parler du terme de communautarisme qu'on a totalement diabolisé, délégitimé par avance. Alors, certains communautaires, ce sont pas des communautariens du reste, hein. Ce sont des minorités américaines, ont prêté le flanc à la critique, hein. Puisque rappelons que dans les années 1900, il y a eu tout un débat aux États-Unis dans les années 1960 autour du multiculturalisme, non seulement ethnique, religieux, mais encore sexuel. Hein, et d'abord en un sens sexuel, hein, puisque c'est les communautés afro-américaines, certes, mais également féministes, mais également homosexuelles, hein, qui ont mis en avant la revendication communautaire, hein, avec une dimension péjorative. Je m'explique, hein, c'est que ces communautés demandaient à la fois l'égalité des droits et un surcroît de droits en tant que communauté d'élection. Donc ça a généré pas mal de malentendus. Et en France, on retrouve la même chose, hein, à la marge, bien sûr, du paysage politique, avec les indigènes de la République, avec le CRAN, qui se revendique communautariste et multiculturaliste, hein, au sens péjoratif du terme. Hein, c'est-à-dire qu'ils veulent donc l'égalité des droits, mais ils veulent également, en tant que... ex-colonisés, ex-victimes du pouvoir patriarcal, hein, bénéficier d'un excédent de droit qui est indu. Donc tout ça a suscité, a généré des malentendus autour du terme, hein, et surtout les Français n'arrivent pas à faire le deuil, hein, de l'échec de leur modèle assimilateur, hein, d'où les cris d'orfraie dès lors qu'on met sur la table le mot de communautarisme.
Pourtant, si on revient à la définition, c'est comme une évidence, la communauté c'est même naturel, aucun individu n'existe sans appartenance, elle existe même avant toute construction d'État ou d'institution. Qui fait que on a décidé de supprimer les communautés par rapport à l'État?
Parce qu'en France, on est vraiment pris en étau entre, d'une part, les souverainistes qui s'imaginent que l'État-nation va résoudre tous nos problèmes, et les républicains qui s'imaginent que la République n'est qu'une étape transitoire vers une citoyenneté mondiale. Hein. Citoyen du monde veut rien dire à cet égard, puisque c'est si le citoyen du monde induit que c'est un monde sans citoyenneté. Mais passons. Alors je reviens sur la question de la définition de la communauté, du commun, des communs. Toute la philosophie politique occidentale, depuis Aristote, c'est-à-dire en l'occurrence depuis 2500 ans, repose sur la notion de communauté. L'homme est un animal communautaire. La communauté est un principe premier, le tout commencement de toute chose. Mais la pensée moderne, libérale, individualiste, a placé l'individu au pinacle, au détriment du principe communautaire. Alors certes, on peut dire qu'à minima, ce qu'il y a de commun dans l'homme, c'est son humanité. Mais on n'a rien dit quand on a dit ça, puisque cette humanité, elle est abstraite, hein, elle est générique, hein, accessoirement génétique, elle relève de l'espèce. Hein. En vérité, il n'y a que d'individualité en propre. Hein. C'est-à-dire que moi, en tant que François Bousquet, je suis en effet un individu. Mais en tant qu'être appartenant à une société, je suis, par définition, je relève d'une appartenance communautaire. Hein. Mais on se heurte en France au malentendu, mais c'est plus qu'un malentendu, c'est pour la France un problème de digestion philosophique, hein, de ce mot communauté qui fait débat. Alors je m'entends, la communauté court, c'est un fil directeur qui va de Aristote à Rousseau, en passant par Hegel, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de société sans communauté. Mais comme la philosophie individualiste a renversé la hiérarchie des places, hein, et placé au premier plan l'individu autonome, hein, parler d'individu autonome est une absurdité, puisque en dernière analyse, l'individu autonome, il est seul, hein, il est prisonnier d'un solipsisme, hein, il est prisonnier de sa solitude, il est orphelin, il est déraciné, détaché, ça n'a absolument aucun sens. Hein.
Alors, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, nous venons, parce que comme il n'y a pas encore l'image sur Radio Courtoisie, Olivier François vient d'arriver dans les studios. Bonsoir Olivier. On s'aperçoit que, et on le disait tout à l'heure, que tous les hommes politiques, en tout cas en France, sont contre ce communautarisme, mais c'est aussi sur un plan idéologique, c'est-à-dire que toute la branche de la gauche et du communisme l'ont été. Le libéralisme, c'est l'individu roi. Idéologiquement, au départ, c'est la philosophie des Lumières qui s'attaque aux communautés pour substituer une société d'individus. Mais à l'époque, c'est contre la royauté.
C'est contre la royauté. communauté, c'est contre le province. C'est le célèbre discours de l'abbé Seyès, offert de ma part, sur l'obscurantisme qui parle bas breton. C'est en réalité, on évacue les corps intermédiaires, on évacue le principe de subsidiarité qui fonctionnait jusqu'à un certain point, puisque le jacobinisme a une existence antérieure aux patriotes jacobins et aux sectionnaires. En un sens, il est même constitutif de l'être français. Pour autant, il y avait énormément de liberté communale, et on considérait que le principe de solidarité est assez intéressant, parce que c'est un principe authentiquement communautaire. Ce que je peux faire à mon niveau, je le fais. Ce que je ne peux pas faire, je le délègue. Mais je ne délègue pas ce que je peux faire. Or, dans la perspective de l'État-nation, où il faut essayer de rassembler autour du cœur nucléaire français, j'allais dire capétien, parce que ça a commencé sous les capétiens et révolutionnaires, il a fallu agréger, je le disais précédemment, par capillarité pour la périphérie du noyau français, mais toutes les marches françaises ont été assimilées de force, la Bretagne, l'Alsace. Et pour construire ça, on a évacué toutes les communautés. Les Allemands sont assez intéressants. Alors on parle peu du dossier, en l'occurrence, je me suis un peu écarté du dossier, c'est qu'il y a trois longs papiers d'Alain Benoît. Et Alain Benoît rappelle un petit peu comment apparaît le principe communautaire. Il apparaît en sociologie conjointement en France et en Allemagne, étonnamment. D'abord en Allemagne, mais c'est de quelques années, et Durkheim va lire Tonise, qui est l'auteur de Communauté et Société. Ferdinand Tonise est le fondateur, le livre qui est sorti en 1887, est le considéré comme le fondateur de la sociologie allemande. Max Weber va s'en réclamer. Et il met en vis-à-vis, en parallèle, deux idéal types, la société face à la communauté. La communauté, donc, c'est les sociétés, les structures organiques. Et en face, en termes bergsoniens, c'est les sociétés rationnelles, mécaniques, modernes. Alors, on a tendance à penser, depuis, quand on s'intéresse à l'avènement de la modernité, que les communautés, les sociétés ont succédé au principe communautaire. L'ironie de l'histoire, c'est que l'âge postmoderne qui est le nôtre, pour le meilleur et pour le pire, mais aussi pour le pire, montre que c'est pas aussi simple que ça. Qu'en réalité, penser que la modernité, comme l'a dit Weber, est un processus de désenchantement, de rationalisation, est un peu un enfantillage, parce qu'elle présuppose qu'à la toute fin, qu'à la fin du fin, l'homme en fait est une machine. Donc c'est négliger beaucoup de dimensions de l'être humain, les dimensions d'appartenance, les dimensions émotionnelles, les dimensions communautaires, romantiques. Donc tout ça pour dire que l'Europe s'est heurtée un siècle avant les communautariens américains, un siècle à l'année près, puisque c'est dans les années 80 que les communautariens aux États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, pensent également les apories de l'individualisme, parce que là encore, l'individualisme, le postulat ultime du libéralisme, c'est le mot de Margaret Thatcher, mais qui n'est pas une boutade, c'est la société n'existe pas. Je m'entends, la société existe, puisqu'il n'y a jamais d'individu autonome en soi, mais c'est malgré tout l'objectif,
Olivier François.
Et la modernité pense aussi ses conséquences. C'est-à-dire que vous évoquiez aujourd'hui les gens qui s'attaquent au communautarisme sont en général des républicains. Donc des modernes, en quelque sorte. Et au fond, c'est des modernes qui s'opposent à la modernité, paradoxalement. C'est-à-dire qu'un Régis Debray, même s'il a beaucoup changé, ou un Alain Finkielkraut, aime ce monde de la non-communauté, ont une détestation de tous les enracinements traditionnels, en quelque sorte, sauf quand c'est les leurs. Mais c'est pour ça que c'est intéressant que ce dossier d'éléments m'a intéressé. Et là où on voit le grand talent, il nous a habitué à son talent d'Alain de Benoît, c'est-à-dire de ne pas céder sur cette question qui me semble très importante, c'est-à-dire qu'on peut évidemment attaquer le libéralisme sans se réfugier sur des arrière-gardes, en tout cas dans la modernité, qui sont, à mon avis, la nation, une certaine conception, en tout cas républicaine et moderne de la nation. Et quand Finkielkraut, par exemple, ou un Régis Debray parle de la nation, même si Régis Debray a changé là-dessus, François, vous pourrez commenter ce que je suis en train de dire, il parle toujours de la nation comme une sorte d'addition d'individus. Et ça qui est terrible, c'est que chez eux, la nation doit absolument se fonder sur le déni des enracinements communautaires. qu'il soit d'ailleurs breton, basque ou aujourd'hui d'ailleurs musulman.
Mais je pense qu'il est partagé. Ça va très au-delà des cercles souverainistes, parce qu'il ne s'agit que des cercles dans le cadre du souverainisme, même si le Front National, avec ses 25% de voix, montre que ça a une importance. Il y a une dimension sociale dans le Front National. Ça excède très largement. C'est tout le spectre, c'est tout le champ politique, à peu de choses près, qui a une vision répulsive et horrifiée du communautarisme. Moi, j'ai évolué sur la question. Comme je me retrouve parfaitement dans les positions de Julien Rochedi, qui me semble assez juste. Hein.
Du Front National, d'ailleurs, ancien.
Responsable du FNJ. On a eu l'occasion de le dire, mais il faut le rappeler. Il faut pas se tromper sur le phénomène. On est vraiment rentré dans le monde de Jean Raspail, hein, d'une immigration massive, qui a complètement changé la donne. Hein. Je pense que si je m'inspire de l'opposition que fait Hervé Juvin, en l'occurrence entre les indigènes et les colons. Si un Esquimau s'installe en Australie et vit en Esquimau, c'est un colon. Parallèlement, si un Français s'installe en Afrique du Nord, comme on a pu le faire au XIXe siècle, hein, et vit en français, c'est un colon. Mais poursuivons le raisonnement, si un musulman s'installe en France et vit comme un musulman du Maghreb, c'est un colon, et non pas un indigène. Hein. Et il se pose le problème du hors-sol, hein, et que le hors-sol est autorisé par le système de communication mondial aujourd'hui, qui permet à un subsaharien, grâce à son forfait mobile, hein, d'être à la fois ici et d'ailleurs. Hein. Donc, fondamentalement, l'immigration est un déracinement, l'immigration est un malheur, hein, sauf pour l'immigration des très riches, hein, sauf pour l'immigration choisie des classes supérieures. Hein. Donc c'est vraiment une douleur, l'immigration. On peut pas s'imaginer qu'on part d'un point A pour aller à un point B et qu'on vivra dans le point B comme on a pu vivre dans le point A. Sauf si on épouse la mentalité américaine, qui est la mentalité des colons, par définition. On passe de l'Europe aux États-Unis, de la côte Est à la côte Ouest, hein, avec tout le fantasme des frontières. Et en dernier ressort, on a colonisé le monde horizontalement, on va le coloniser verticalement en trouvant un astre de substitution.
Le grand fantasme.
Au bout de mon raisonnement, je veux expliquer en quoi moi, ma position a très largement évolué et j'étais sur ce plan-là. Parce qu'à d'autres égards, je fais plus que me reconnaître dans les positions d'Alain de Benoît. Mais sur ce plan-là, la question a totalement évolué, eu égard à l'échec complet de l'assimilation.
Mais la question de la République se pose pas aujourd'hui, dans le sens où est-ce que la République suffit pour résister au grand rememplacement, comme dit Renaud Camus?
Non, il ne semble pas.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gens-là qui veulent assimiler et qui ont une notion, malgré tout, de la nation ou de la communauté très abstraite, c'est-à-dire c'est la République, laïcité, riposte laïque, comme disent certains amis, et riposte laïque, ça ne suffit pas, riposte laïque. Il faut concevoir la France d'identité européenne, d'identité qui vient d'une longue histoire.
On va parler un peu d'Europe. On reviendra tout à l'heure sur le problème de l'immigration. Il y a une chose que peu de personnes ont prévue, c'est que les pro-européens, quand ils ont mis en place et qu'ils sont en train de mettre la disparition des États, on s'est aperçu que ça a fait ressurgir les communautés. La mondialisation, qui aurait dû être une étape dans la modernité, va faire réapparaître des communautés anciennes, comme les religions, les régions, on l'a vu, mais aussi d'autres nouvelles communautés vont apparaître. Ça c'est, je dirais que c'est cette fameuse grande mondialisation qui aurait dû être ce grand peuple qui se mélange. En fait, il y a eu un vide et les gens se sont réfugiés. Il est assez extravagant de voir qu'aujourd'hui les Français seront attachés à leur département. Alors que c'est une chose complètement fabriquée.
Sur la question des départements, c'est Guy Louis qui a la meilleure réponse. Hein. C'est qu'il reste plus que ça dans le périurbain, la France périphérique. Il n'y a plus que ça. C'est de l'ironie de l'histoire. Et l'autre ironie que vous soulevez, que vous pointez, c'est le basculement du moderne à le postmoderne, pour le meilleur et pour le pire, je le répète, hein, c'est qu'en fait, de toutes les religions qui n'ont pas fait leur aggiornamento avec la modernité, triomphent aujourd'hui. Toutes les religions qui sont passées par une phase Vatican II, protestants, catholiques, hein, s'érodent, sinon s'effondrent. Hein. dans le protestantisme, c'est les formes fondamentalistes qui triomphent. Mais on retrouve le même phénomène en Russie, on retrouve le même phénomène en Inde, on retrouve le même phénomène dans les pays musulmans. C'est que partout, alors sous une forme souvent mutante, sous une forme souvent parodique, mais ça ne fait que souligner le besoin, je cite la phrase vitale, capitale de Simone Veil dans L'Enracinement, elle dit de l'enracinement que c'est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Et on a cru, la modernité a cru, je le répète, par enfantillage, parce qu'il faut, avoir une vision schématique de l'être humain, de penser qu'on allait pouvoir faire l'économie de cette, de ce besoin d'enracinement, qui est d'abord un besoin d'enracinement communautaire.
Ouais, ce qui passe mais en même temps par une schizophrénie incroyable, c'est que ce besoin de raffinement se manifeste chez certains de nos contemporains aussi par un déracinement absolu dans leur vie de famille, dans leur vie économique, dans leur même dans leur vie religieuse. C'est-à-dire qu'on peut avoir des, moi je me suis intéressé un peu à l'affaire Mera. Mera était à la fois un islamiste radical et un geek.
Comme Ander Breivik et comme apparemment plein d'apprentis djihadistes et la schizophrénie, mais alors là on rentre dans un autre sujet, c'est une des pathologies de la postmodernité. On a des allégeances multiples, on est sollicité par la famille, la religion, par
c'est un peu sauf
que Maffesoli, l'épouse, moi je le compare toujours à Muret. C'est l'envers et l'endroit d'une même question. C'est que Muret est pessimiste et regarde cet homme en train d'advenir. Il pêche par un excès de pessimisme. Et Emma Fessoli, ce remarquable entretien, mais s'enthousiasme pour toutes les formes, même les formes les plus contestables, à mon sens mutantes, du renouveau, si on peut parler de renouveau, et des communautés. Et si on peut parler de communautés, là encore.
Alors, il y a un autre paradoxe en France, que souligne très bien Alain de Benoît, c'est que dans une majorité de pays, et surtout anglo-saxons, être contre le multiculturalisme, c'est automatiquement être contre l'immigration. Mais pas en France. Alors, on aurait une recette magique qui aurait été la laïcité. Et j'ai l'impression que les politiques ont encore cette recette magique et nous la sortent. En fait, c'est la seule solution qu'ils ont à nous proposer. La laïcité n'a strictement rien à voir avec le problème des communautés.
En même temps, c'est un peu cacher ce sein que je ne saurais voir. C'est-à-dire que la nation française depuis 89 et même peut-être un peu plus loin que cela, s'étant basée non pas sur une conception identitaire de la nation et de la communauté, elle est démunie. Tout le monde est français. Donc on refuse, nos gouvernants, nos élites refusent de désigner, de définir ce qu'est être français, ce qu'est être européen. Qu'est-ce qui appartient à la communauté nationale aujourd'hui? C'est quelqu'un qui vote, en quelque sorte. C'est un citoyen. Donc un citoyen voilé ou un citoyen circoncis est toujours un citoyen. On ne va pas lui demander des comptes. Je disais un citoyen circoncis, je ne fais pas de dérapage en disant cela, parce qu'il y a en effet, à mon avis, des grands juifs de France. Enfin, on en a autour de nous, et ils ont apporté à la nation française et à la communauté française quelque chose de merveilleux. Sauf qu'ils étaient évidemment circoncis, mais en même temps, ils apportaient quelque chose à la France. Ils se sentaient français. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs tout à fait des immigrés. Beaucoup d'immigrés aujourd'hui, moi j'étais dans le métro tout à l'heure, j'ai vu encore un jeune issu d'immigration parlant entre eux et se dire d'où tu viens, alors qu'ils sont français ces gens-là. D'où tu viens? Ben, je suis sénégalais, je suis marocain, je viens du bled. Ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs de nos juifs de France ou d'autres communautés. Un polonais du nord de la France français ne dirait jamais ça.
C'est une communauté qui s'est intégrée, qui est quand même riche d'enseignement, la communauté polonaise. Elle a mis 2 à 3 générations à s'intégrer.
Mais elle est devenue française,
elle est
réellement
française, mais
tout en gardant d'ailleurs certaines de ses traditions.
Je suis pas un militant de la remigration, qui me semble un peu pieux, quoi. Pour autant, il y a eu de gros retours de Polonais à la veille de la Deuxième Guerre mondiale.
Je vous coupe, c'est un peu la propagande qu'on nous a faite. Nos politiques ont décidé, ça c'est l'idée républicaine, que naturellement l'immigré, en quittant son territoire, quitterait sa communauté, sa religion, ses traditions. Et puis on nous a toujours donné cet exemple des Polonais et des Italiens. Mais si on prend les chiffres, 70% de ces Italiens et ces Polonais sont retournés dans les 5 ans dans leur pays. Ouais. Ceux qui sont restés sont en règle générale des gens qui étaient célibataires, qui se sont mariés avec des Françaises. Et en fait, ils sont très peu.
Par rapport à l'afflux. Il y a eu des politiques aussi volontaires de la France pour le retour, parce que c'est un contexte de crise. C'était en 37-38, sauf erreur.
On a appliqué d'ailleurs, je crois que le gouvernement Blum a appliqué la préférence nationale.
Oui, une fois que c'est même le gouvernement Blum, c'est peut-être à partir de 36 que ça a commencé à... Cela étant, à l'époque, il y avait, vous le disiez, des mariages mixtes. Or, il apparaît aujourd'hui que, en fait, on a longtemps cru qu'il y avait des mariages mixtes assez importants et que la France se singularisait du reste du monde, en fait, des pays de l'OCDE par un niveau assez important de mariages mixtes. En fait, ce qui prévaut, c'est l'endogamie. En réalité, c'est du regroupement familial masqué, les mariages mixtes. En fait, c'est un Français immigré récent qui fait venir ou qui épouse. Soit un Tamoul, soit un Algérien, soit un Sénégalais.
C'est vrai que ça, c'est...
Mais tout ça pour dire que il se produit quand même un gros changement. Pour rebondir sur ce que disait Olivier, il y a quand même une assimilation qui a fonctionné. Et elle a fonctionné évidemment sur quelque chose d'assez abstrait, mais c'est le drame de la France. Il faut pour le dire de manière un peu pompeuse, c'est que l'Allemagne a la Bible de Luther, les Anglais ont la couronne. Nous, la couronne, on l'a décapitée en 89. C'était le principe qui agrégeait les communautés de France. Donc on a tant bien que mal essayé de substituer à ça ce qu'on appelait la grande culture, dont se réclame Finkielkraut.
Et en même temps, c'est dans cette grande culture qu'il faut quand même noter que dans la Troisième République, même jusque dans les années 50, faisait étudier Bossuet aux Chartettes blondes. C'est-à-dire étudier Bossuet au nom de la France, évidemment. Et même la France républicaine faisait étudier Bossuet, les questions de la grâce.
Mais pour la raison toute simple que c'est... je pense que la France se singularise par un mépris des cultures vernaculaires, populaires, folkloriques. On est le pays qui les a évacuées le plus profondément. Simplement, je me répète, je ne fais pas l'éloge des causes, j'enregistre des conséquences. Donc je prends acte. Mais prenons acte de ça, l'assimilation a pu fonctionner jusqu'à un certain point et jusqu'à une certaine date. Aujourd'hui, elle ne peut plus fonctionner parce que, comme vous le disiez, Olivier, assimilé à quoi? Assimilé au néant contemporain, assimilé au narcissisme, à la consommation de marque, à la dépression. Éric Zemmour dit que fréquemment, il est au-delà du merveilleux, Zemmour.
Il a réussi d'ailleurs, notons-le.
Ouais, mais il cite fréquemment pour défendre. De manière absurde, quelque chose qui ne fonctionne plus, dans l'occurrence l'assimilation. À Rome fait comme les Romains, mais le drame d'aujourd'hui, c'est que les Romains vivent comme des Américains. Et les Américains vivent comme... Donc il faut tirer un trait sur l'assimilation. Donc moi je renvoie les auditeurs vraiment aux trois papiers de Benoît qui vraiment de manière il prend du champ, du recul, il rappelle qu'il n'y a pas de société qui tienne sans principe commun et que toutes les communautés qui veulent faire sécession n'ont pas leur place dans l'ensemble, dans la société. À propos de ça, moi je pense que tous les dérives multiculturalistes n'ont pas leur place dans la société. C'est donc le CRAN, les indigènes de la République, c'est nous les indigènes. Eux peut-être le deviendront-ils, mais pour l'occurrence c'est nous les indigènes.
On parlait tout à l'heure des nouvelles communautés et de Michel Maffesoli, mais il y a un autre phénomène qui est apparu, c'est le français de souche. Alors, c'est le paradoxe, c'est que nos chers sociologues ou démographes expliquent qu'il n'existe pas, que chacun a forcément dans ses ancêtres un étranger ou plusieurs étrangers. Alors, affirmation que l'on pourrait facilement contester, mais c'est pas le débat. Tombons dans l'absurde. Si scientifiquement ou historiquement le français de souche n'existe pas, pourtant une partie de la population se définit comme français de souche.
ça serait, c'est aussi absurde que de vouloir expliquer aux juifs qui ne sont pas forcément juifs parce que leurs descendants ne sont pas parfaites jusqu'à aux tribus d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui se sont créés presque une communauté, et on voit des jeunes qui ont des valeurs qui parfois sont, je dirais, presque comiques. C'est-à-dire que leur valeur, leur enracinement, c'est dans des films américains, c'est de reprendre
voir le film que vous parlez.
Oui, ils sont en train de se créer leur propre communauté avec un passé qui n'est pas enraciné.
Oui, c'est la schizophrénie de la réinscription dans la communauté. Peut-être que vous songez au film 300 ou à ce
oui,
genre
par exemple,
tous les codes sont hollywoodiens, relèvent des comics, avec une hyperviolence esthétisée, ou des mangas, enfin que sais-je, enfin bref,
est plutôt une bonne chose. Hein. Ouais. C'est efficace.
C'est efficace.
Mais ce n'est pas très enraciné.
Non, voilà, c'est une greffe. Hein. C'est très curieux, c'est que le racinement repose sur une greffe aujourd'hui, mais c'est qu'on revient de loin. Moi, j'ai toujours en tête, aussi les identitaires. Vous avez envie de lire un chef-d'œuvre du déracinant, c'est Les Immémoriaux de Victor Segalen. J'en parle jamais sans émotion de ce texte. Victor Segalen débarque en Polynésie et il tombe sur des communautés maoris totalement européanisées, totalement christianisées, qui ont trahi, abjuré, parjuré, quoi. Et ironiquement, c'est l'ironie de l'histoire, c'est que le drame qu'ont vécu tous ces peuples-là, c'est le drame auquel nous sommes confrontés aujourd'hui.
Et qu'on avait vu d'ailleurs bien avant l'immigration, parce que vous parlez des Immémoriaux de Victor Segalen, mais le Pasolini des Écrits corsaires voit un monde disparaître en 20 ans. Non pas coups de l'immigration, mais sous les coups du capitalisme, de l'imposition par la télévision, justement, d'un modèle unique, d'un modèle donc que d'ailleurs Pasolini qualifie totalitaire. Il va jusqu'à dire le centralisme fasciste n'avait pas réussi à faire.
Je suis d'accord avec vous sur Pasolini, Peggy, mais dans Segalen, la dimension plus scandaleuse, c'est qu'elle est ethno-religieuse. C'est que en réalité, c'est des gens qui consentent à leur propre disparition.
Peggy parle de race aussi, la disparition de race française.
On est d'accord, mais c'est un autre sens. Segalen parle, comment s'appelle-t-il cet affreux prix Nobel, le procès verbal,
Le Clévio.
Merci Olivier. En général,
on le prend tout de suite.
Voilà,
L'affreux prix Nobel, Le Clévio.
D'une niaiserie incommensurable. Alors on a abandonné Segalen à des gens comme Le Clévio et à leur niaiserie sentimentale insipide. Mais il faut le lire à la lumière de la disparition d'un peuple, d'une culture, d'une religion et d'une disparition consentie. Les Européens ont pendant longtemps consenti à leur propre disparition. Donc je peux les accabler, je veux dire les jeunes, mais j'ai pas envie puisque ça part d'un réflexe sain. On peut pas créer quelque chose sur rien. Alors évidemment, il recrée à partir d'emprunts étrangers, mais comme on est dominé symboliquement, on est colonisé, comme dit Latouche, mentalement par les Américains, c'est à la culture, la sous-culture populaire américaine qui font leurs emprunts. Mais ça part d'un principe légitime. Donc, je ne sais pas ce qu'Olivier peut plus.
Alors, vous êtes sur Radio Courtoisie dans l'émission Les Chroniques de la Vieille Europe et j'ai le plaisir d'avoir dans le studio François Bousquet et Olivier François, journalistes de la revue Éléments, et on parle de leur dossier « Faut-il haïr le communautarisme ?». Alors, on a vu tout à l'heure, François, que le modèle anglo-saxon, ça a été le multiculturalisme. Mais existe-t-il vraiment, est-il pas une sorte de leurre ? Parce que dans la réalité, on parlait tout à l'heure de ce fameux français de souche, mais dans la réalité des banlieues de Paris, Londres et même à Chicago, dans un pays multiculturel, c'est plutôt un modèle multiethnique qui s'est mis en place. On le voit bien dans l'arrivée de l'islam, c'est plus une contestation politique que culturelle.
Oui et non.
Quand on parle de communautarisme, en France, la communauté maghrébine, on la voit se radicaliser avec un islam qu'elle ne connaissait pas. Je veux dire,
de la même manière que c'est la postmodernité. C'est le meilleur, le pire suit le meilleur et réciproquement.
C'est indissable d'ailleurs hors sol. Moi, je trouve que c'est très intéressant de voir le profil des djihadistes qu'on nous présente à la télévision, mais où il y a des articles qui sont assez bien faits, même dans la presse de grand public. Sur moi, je reviens toujours à Mera. Mera jouait à la PlayStation avec sa femme. Ouais. C'est qu'on a quelqu'un qui se réclame de Daesh, enfin pas à l'époque, enfin du djihad, de Mahomet. Donc qui sans doute recherche des racines très profondes et qui en même temps est un pur occidental dégénéré qui joue à la PlayStation.
Mais Daesh, c'est des
jeux vidéo.
Mais il faut aller plus loin puisque c'est le paradigme des fondamentalismes. C'est les Américains qui l'inventent sous un mode parodique puisque ils recréent des fondamentaux à créer et puis de transhistoriques. Mais le salafisme est beaucoup plus fascinant encore, parce que c'est quoi le salafisme?
Le salafisme,
c'est on part du principe que tout est impur dans l'islam historique, à partir de la troisième génération après Mahomet. Les deux grands traits du religieux chez les musulmans, mais comme chez les chrétiens, c'est le culte des saints et le culte des morts. Les salafistes le bannissent, et ils recréent, à mon sens, à partir d'un ADN fossile de ce qu'a été l'islam, il recrée un islam de synthétique.
En l'occurrence, le salafisme est une idéologie de la table rase. C'est ce qui est intéressant. C'est une sorte d'universalisme abstrait. Ouais. Pour les auditeurs, j'aimerais rappeler, enfin, une anecdote qui m'a été rappelée, quand les salafistes et les saoudiens ont commencé à financer un certain nombre de groupes chez les Ouïghours, de groupes islamistes, la première chose qu'ils sont arrivés dans les villages, c'est de détruire les mosquées traditionnelles en mosquée, en béton armé, etc. Donc il y a une volonté de table rase qui d'ailleurs rappelle beaucoup le mondialisme américano-centré aussi.
Mais il s'en inspire directement, parce que la matrice du salafisme, c'est le wahhabisme. Le wahhabisme, c'est le puritanisme de l'islam. Les gens l'ignorent, mais les wahhabites ont profané Médine, ont profané la Mecque, ont détruit la tombe du prophète, et détruit la tombe des compagnons on mis à sac ces villes-là. C'est très curieux. Au 19e siècle, le wahhabisme est pris pour une hérésie grossière par les oulémas, les docteurs de la loi. Et au 20e siècle, grâce à l'argent saoudien et à l'alliance avec les pétrodollars américains, le wahhabisme devient la religion, l'orthodoxie sunnite légitime. Et ça, c'est le grand paradoxe des reconstructions identitaires sur des fondements historiques assez inexistants.
Alors juste une question, je vais pouvoir y répondre facilement. C'est l'avantage, il y a un auditeur qui nous demande, on fait référence à trois articles d'une production récente d'Alain de Benoît. Alors c'est effectivement, peut-être qu'on l'a dit au début de l'émission et il faut le redire, c'est dans le dernier numéro d'Éléments d'avril-juin 2015, dans le numéro 155, vous le trouverez en kiosque sans problème. Vous aurez une belle photo d'Indien. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui va m'expliquer pourquoi on a mis une photo d'Indien.
Enfin, je vois tout vite pourquoi.
Par convocation, par...
Oui, parce que c'est des gens qu'on va... En l'occurrence, eux, les Indiens d'Amérique, incarnaient, à mon avis, une identité très forte et qui ont été détruits par une idéologie de la table rase, justement.
Je parle de provocation parce que les Indiens sont devenus une communauté sur leur propre sol.
Alors que c'était un peuple avant.
Alors que c'était des peuples. C'était leur terre au départ.
Je crois qu'un des premiers présidents américains disait cette phrase qui va d'ailleurs faire frémir, je pense, un certain nombre d'auditeurs barésiens. Les morts n'ont aucun droit. Je crois que c'est Jefferson qui disait ça. Les morts n'ont aucun droit. Voilà ce qui est à l'origine de cet état États-Unis d'Amérique qui ont tué, je crois, entre 10 et 15 millions d'Indiens.
Alors, ils pourraient se retrouver...
D'où l'Indien sur la une de l'aimant, c'est-à-dire cet hommage que nous avons à cette grande extermination, cette grande disparition, pour reprendre le terme de certains historiens récents, cette grande extermination, cette grande disparition, non pas du peuple juif d'Europe, mais du peuple indien d'Amérique.
Si je peux dire un mot, dire un mot sur la beauté de la une d'éléments. Alors Patrick PL le fera pas puisque il endosse plusieurs panoplies, mais c'est lui qui l'a réalisé. Elle est superbe. L'Indien est magnifique, d'une dignité absolument superbe.
Et qui est une photo du début du siècle représente un chef, je crois, Sioux. Mais En prenant le modèle américain, le multiculturalisme, on a vu que les Indiens, qui étaient le peuple d'origine, c'est ce qui risque d'arriver au fameux WASP. Est-ce qu'on risque de voir la disparition ou est-ce qu'on va avoir un multiculturalisme qui va pouvoir se... parce que après tout, cette société multiculturelle, je parlais tout à l'heure des banlieues de Paris, de Londres ou de Chicago, par expérience ayant été à Chicago, qui est quand même l'une des villes où l'une des plus grosses communautés noires des États-Unis, quand vous êtes dans les quartiers du centre-ville, quand vous êtes dans les quartiers dits blancs, vous n'en rencontrez strictement aucun. C'est-à-dire que c'est une ville qui est très sûre, sauf dans les quartiers où il y a de la violence. Et donc, est-ce que cette séparation va pas se faire naturellement on va pouvoir vivre comme
elle
ça?
Elle existe de fait en France sous une autre forme, sous une forme hybride et brésilienne, si on veut, parce que ces frontières sont moins visibles, hein. Mais partout apparaissent des frontières invisibles, qui sont dans les villes, dans les quartiers, dans les campagnes, dans les banlieues. On a cru que par le mariage mixte, on allait un petit peu la France singulariser par une porosité intercommunautaire. Mais il apparaît qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Alors évidemment là encore on est dans une autre forme de déni. En réalité on a toujours dans le même déni du communautaire en réalité. C'est qu'on ne veut pas admettre le fait communautaire.
Qui le déni aussi dans certaines banlieues du fait que la culture qui s'impose, enfin la culture, oui, l'espèce de sous-culture salafiste dont vous parliez, François, s'impose aussi aux dits français de souche. Malheureusement,
c'est
assez terrifiant de voir qu'un certain nombre de personnes, je pense par exemple à des quartiers comme Bagneux, Vénissieux, etc., aujourd'hui se convertissent simplement pour avoir la paix. C'est même pas par sympathie pour cette religion, c'est simplement pour avoir la paix, ils se convertissent. Et moi j'en ai, certains de nos amis ont des exemples.
Oui, mais on en connaît, et puis tous les Français connaissent le Caribéry, qui est quelque chose d'exceptionnel, le Caribéry. C'est que quand ils parlent de sa communauté, ils parlent de la communauté qui est par-delà la Méditerranée, quoi. C'est qu'il est rentré dans un phénomène d'amnésie... Mais c'est vrai,
l'échange entre Éric Zemmour et Alain de Benoît, c'était l'exemple que Zemmour prenait. C'était Ribéry qui avait retrouvé dans sa belle famille, en fait, une communauté avec une chaleur, avec une sorte de protection.
Akhenaton, c'est exactement la même chose. Quand Akhenaton parle de l'islam, de sa femme et de l'Afrique du Nord, c'est en ces termes-là. Moi, je rajouterais une autre dimension, c'est qu'on est des êtres comportementalistes, hein, et qu'on a tendance à marcher au pas devant l'énergie et la puissance qui se dresse, hein, quel que soit l'uniforme militaire ou la djellaba, il faut jamais négliger la soumission à une force dynamique. Hein,
ouais. Ça fait penser d'ailleurs aux analyses de Hannah Arendt sur la SA et sur le nazisme, c'est-à-dire que les masses totalitaires étaient des masses avant tout déracinés, et qui ont trouvé, par exemple, un jeune qui s'engageait dans la Tchéka, on fait un cas à part, mais en tout cas dans la SA, trouvé une communauté en effet totalitaire, abstraite.
On retombe toujours sur le même dilemme, c'est que on peut pas construire sur du sable, et c'est ce qu'on a cru pouvoir faire pendant du 18e siècle à aujourd'hui.
Encore, c'est pas avec Charlie ou avec l'esprit Charlie qu'on va construire quelque chose, évidemment. C'est la meuf qu'ils ont essayé. Ouais. On sent que Valls, Taubira ou d'autres sociotraites, comme parlaient les communistes allemands dans les années 30, essayent de construire pour eux la grande solution, c'est l'esprit Charlie, c'est l'esprit du 7 janvier. À mon avis, l'esprit du 7 janvier d'ailleurs est profondément méprisable.
Il a d'ores et déjà raté.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est raté parce qu'en banlieue, tout le monde se moque de cet esprit-là. Et puis même chez les Français de souche, tout le monde s'en moque.
Oui,
encore une fois, à côté de la plaque.
Enfin, on parlait tout à l'heure, pour commencer cette émission, des politiques qui sont tous d'accord pour refuser ce communautarisme et dire qu'il n'existe pas. Hein. On est effectivement, Olivier François, vous parliez d'un discours schizophrène. C'est vrai que le numéro d'Éléments est sorti, il y a eu cette déclaration de Julien Rochdy, et qu'on a trouvé estimable, ce n'est pas
un. Quelle est la déclaration?
Julien Rochdy a fait a simplement, alors oui, parce que François Bousquet en a parlé, il explique qu'il est pour les gens qui ne connaîtraient pas, Julien Rochdy était membre du Front National et à la tête du FNJ, du Front National Jeunesse. Et que par une sorte de principe de réalité, que pour lui le communautarisme est inévitable. En tout cas, il est là et que ses propos sont assez cohérents, assez convaincants. Je crois qu'il doit avoir une tribune sur Internet.
Il a un blog, oui. C'est son blog.
Il est sur son blog là-dessus et qu'il est clair que vu l'arrivée aujourd'hui, on l'a vu dans l'actualité, comme vous parliez de Jean Raspail, c'est vrai que le scénario de Jean Raspail. Alors pour l'anecdote, c'est que Jean Raspail les faisait venir de d'Inde.
Oui, oui, non pas.
Mais c'était pour les.
C'était plus proche maintenant. Des miséreux d'Inde. Hein,
mais c'était pour des raisons pour rester dans une fiction, parce que il est clair que on voit pas comment des Indiens arriveraient
sur exact, la
Méditerranée.
Non, oui, en Australie, d'accord.
Ça, c'est l'avantage du romancier. Il peut se permettre ce genre de choses. Donc, on voyait Julien Rochdy qui, effectivement, a fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et je mettrai une pièce dans le cochonnet son coming out. Vous pensez que les politiques, soit du Front National, Julien Rochdy faisait partie du Front National, ou d'autres partis, vont à un moment prendre cette réalité en compte, où il va bien falloir, il y a un moment, elles sont là, les communautés.
Le parti qui aurait pu peut-être le modifier un tout petit peu la ligne sans totalement la changer, puisque c'était il y a beaucoup de demeures dans la maison du père, en l'occurrence du Front National, hein. Donc Jean-Marie Le Pen essayait d'associer tous des courants qui peuvent sembler contradictoires, mais il semblerait que la ligne Philippot Marine Le Pen soit aux antipodes, hein. Pour autant, tout l'électorat pratique ce que Guy Lui en sociologue dit, que ce qui compte en fait, ce qui définit les gens, c'est pas leur déclaration, ça n'est jamais que un système d'ostentation et d'apparence, hein. C'est les questions qu'ils posent, c'est où tu vis, où tu scolarises tes enfants, où tu vis, dans un quartier protégé, ou s'il n'est pas protégé, c'est l'immeuble qu'il est, quoi. Il est socialement homogène, ethniquement homogène, religieusement homogène, politiquement homogène, c'est-à-dire que les bobos se réunissent parmi les bobos, les ouvriers parmi les ouvriers, ou placent les bobos à l'école, dans le secondaire, dans le privé, ou dans des... parce que ils contournent la carte scolaire, hein, dans des grands lycées. Donc il faudra bien à un moment donné que les politiques ajustent leur discours à la réalité, sinon la réalité va leur revenir en boomerang au visage.
Hein. Mais en même temps, dans certaines élections locales, il me semble que la gauche, notamment une certaine gauche socialiste, fait de la politique clientéliste.
C'est du clientélisme.
C'est du clientélisme. Elle parle et fait des petites déclarations juste avant le premier tour. Pour rallier l'électorat musulman,
oui, l'électorat d'hypocrisie.
Et le Front National, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le Front National alterne un discours républicain, chevènementiste, radical, qui me semble complètement à côté de la plaque, assimilationniste, et en même temps fait des clins d'œil aussi très grand remplaciste, en gros, en tenant un discours très radical sur l'islam, qui est aussi, à mon avis, à côté de la plaque. Ouais. Enfin, vous pouvez regarder dans les détails.
Mais le clientélisme, ça n'est jamais qu'une autre forme de déni, puisque nous le pratiquons, c'est une politique coloniale, le clientélisme. On le pratique avec la religion, avec l'islam, depuis 30 ans en France. Hein. C'est qu'on a délégué l'islam, on appelle ça l'islam consulaire, on a délégué la gestion de l'islam, hein. Mais cet islam-là est balayé. C'est l'islam des blédards, l'islam des...
Et sur la question de l'islam, moi j'aimerais bien réagir, c'est qu'à mon avis, la lutte contre l'islam peut être intéressante, quand Renaud Camus en parle brillamment d'ailleurs. Mais chez Renaud Camus, il y a une ambiguïté, parce qu'à mon avis, il parle du grand remplacement. C'est un changement de civilisation et de culture. Et ce que vivent un certain nombre de personnes en France, c'est non pas une islamisation, c'est une maghrébinisation en quelque sorte.
C'est-à-dire moi, je pense que je vous méprenez, hein, c'est les deux. Ce qui est très fascinant dans le cas des convertis, c'est que non seulement ils épousent la foi islamique, hein, mais il y a un désir d'arabité. C'est les deux se recoupent. Il y a le sentiment que la civilisation arabe et la civilisation, en tout cas sa langue, hein, celle de la révélation coranique, hein, en épousant l'islam, on épouse l'arabité, en épousant l'arabité, on épouse l'islam. Hein. C'est toujours fascinant. C'est ce que n'épouse
mais c'est ce qu'on François, mais j'ai l'impression que le fait de parler d'islamisation de la France empêche en fait de parler de l'immigration. C'est une manière polie de ne pas parler d'immigration.
Les deux désormais.
Et donc de ne pas parler de race, de parler d'identité.
Les deux se rejoignent désormais. La preuve en est, c'est la question du converti. C'est que le converti échappe. L'ironie a voulu que Marine Le Pen se fasse rattraper sur les prairies normandes. Hein. Mais c'est dramatique en un sens. Hein. Non seulement c'est des grandes non seulement on retrouve les grandes invasions. On avait peut-être une parenthèse miraculeuse de 1000 ans qui nous a épargné, où on avait en fait une immigration choisie. On prenait Léonard de Vinci et Mazarin. C'est vraiment l'immigration très ciblée, quoi. Ce qui est plus le cas aujourd'hui. Et il est possible que ça s'assortisse, ces grandes invasions, des conversion de masse, phénomène qu'on avait perdu depuis en Europe, depuis les conversions de masse à la chrétienté.
Oui, parce qu'il y a quand même un paradoxe, c'est que quand on parle des grandes invasions francs, etc.,
c'est dérisoire.
C'était l'élite. Qui envahissait, qui prenait le pouvoir.
Les Burgondes.
Qu'en fait, les gens qui voyageaient à l'époque, ce n'était que l'élite. Et en fait, il y a plus de mélange, je dirais, de peuples dans l'aristocratie européenne que dans le peuple profond des campagnes françaises. Pour peut-être juste, il nous reste quelques minutes et puis on fera notre dernière partie sur le reste de ce numéro d'éléments. Le week-end dernier, vous avez été, comme moi d'ailleurs, au colloque de l'Institut Iliade, qui a été, entre parenthèses, un véritable succès. Nous avons été agréablement surpris pour un colloque qui était quand même assez pointu, plus de 900 personnes, j'ai eu les chiffres officiels de l'Institut Iliade, avec des débats effectivement sur l'univers esthétique des Européens. Alors nous avions reçu le mois dernier l'équipe organisatrice. Il y a chez nos amis l'Iliade, bien sûr, une idée de reconquête, hein, c'est sur le plan culturel, mais ce genre de projet pourrait être le début d'une nouvelle communauté. C'est pas le but de ces organisateurs, mais en fait ça pourrait être une communauté qui est autour d'une idée de culture européenne. On l'a vu à Rome, avant que les communautés disparaissent, elles peuvent mettre des siècles. C'est-à-dire que on pourrait se retrouver minoritaire dans notre propre pays, avec nos propres valeurs, avec des heurts, comme vous parliez de la société brésilienne, ça pourrait durer très très longtemps. Le fameux « ça va arriver », vous savez, le café du bistrot, ça va péter, on va se mettre dessus, etc. Risque de ne jamais arriver, et qu'on va pouvoir continuer à vivre comme ça, séparément.
C'est la stratégie monastère. Ouais. C'est la stratégie monastère.
Vous croyez?
Je sais pas.
J'ai en tête le début des origines de la France contemporaine de Taine, où il évoque de manière magistrale l'œuvre des monastères et des premiers chrétiens. Non, des monastères après la chute de l'Empire romain. Taine n'étant pas particulièrement chrétien d'ailleurs, mais défendant cette œuvre des monastères comme tout d'un coup des cellules se créaient à travers l'Europe après cet grand effondrement de l'Empire pour maintenir autant les évangiles, évidemment, enfin, transmettaient les évangiles pour les chrétiens, mais aussi la grande culture gréco-romaine. Et je pense que d'ailleurs l'Institut Iliade, en tout cas moi je le vois comme ça, malgré les désaccords qu'on peut avoir avec certaines de leurs postures ou l'esthétique qu'ils donnent après Dominique Vénère, mais il y a quelque chose d'admirable, je pense, dans leur travail, c'est cet esprit de dire aussi rester dans le combat culturel, transmettre des choses. Il y a assez peu, je pense, de colloques organisés aujourd'hui avec des tables de libraires et où il y avait des revues, des livres, etc.
Que les gens s'arrachaient.
Et que les gens s'arrachaient. Ouais. Et de ce point de vue, c'est assez merveilleux. L'Institut Iliade.
En dehors des partis politiques, mais avec les universités d'été qui drainent pas mal de gens, mais c'est des gens qui sont payés pour être là. Donc, ils viennent à des symposiums, comme les médecins vont. C'est assez sidérant, 900 personnes, c'est une réussite, c'est une superbe réussite pour un deuxième colloque. Hein. En réponse à la question de Patrick PL sur aucun d'entre nous n'avons des fonds divinatoires. Hein. Pour autant, même s'il apparaît aujourd'hui que l'effondrement romain, en fait, c'est un effondrement par palier, par transition, et qui est beaucoup moins brutal qu'on a pu le croire, et sans verser dans un catastrophisme qui est une commodité. On gère le désastre, hein, on gère une catastrophe en cours. Hein. On va peut-être pas la gérer indéfiniment, peut-être qu'elle va finir par nous dévorer.
Oui, je disais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que je pense créer des cellules, des points de résistance.
Oui, mais ça,
apparemment, d'ailleurs, assez.
Ça, pour créer des cellules, des points de résistance, on est parfaitement d'accord, et c'est comme ça que la chrétienté se construit. Elle se construit à partir des citadelles monastiques, puis surtout monastiques, parce que elle reconquiert l'emboisement, c'est-à-dire elle réapprenne les cultures. Mais simplement, ça présuppose l'effondrement des villes, une rupture dans ce que Jared Diamond appelle dans son livre en américain collapse, donc effondrement. Alors je ne sais pas s'il va advenir, mais réellement je ne vois pas comment vraiment aucune société ne peut tenir sur le nihilisme sans basculer dans la violence. Le précédent russe, pas soviétique, est fascinant. Quand on lit Colosimo sur la Russie, moi j'étais sidéré en découvrant ça. De 1900 à 1917, il y a à peu près 30 000 attentats en Russie. On n'en est pas là.
Paradoxalement, les gens qui commettent cet attentat, même si on les appelle nihilistes, ne sont pas des nihilistes. Ne sont pas du tout détachés de l'histoire russe. Ne sont pas du tout détachés. Alors, c'est pas un débat sur la Russie, même si je suis un lecteur de Dostoïevski.
Rappelez-vous les possédés. Vraiment, il y a tout. Et rappelez-vous comment la police politique a manipulé tout ça.
Évidemment, c'est très ambigu.
Parce qu'on le voit, on pourrait élargir sur l'Europe. La France, qui était le premier pays d'immigration depuis 30 ans, c'est nous qui avons vu la plus grosse communauté. Les Allemands sont en train de nous dépasser, mais on voit des petits pays qui étaient des pays, je veux dire, très homogènes, comme la Norvège ou la Suède, qui par sa petitesse et le peu de population se retrouvent émergés, vu qu'en plus ils vivent que sur une partie de leur territoire. Ces pays-là risquent presque plus d'exploser avant nous, vu qu'on a un territoire beaucoup plus grand et une population. Je dis pas c'est une chance, mais c'est vrai que on aurait été étonné il y a 10 ou 15 ans.
L'Espagne et l'Italie, ça a été un afflux massif de l'ordre de 10 millions. La Grèce.
Pour l'Espagne, une partie quand même de cette population qui est repartie parce qu'ils ont avec la crise a pu repartir parce que. Tout le problème se pose, c'est que l'immigré, même en cas de crise, ne peut pas partir de France vu qu'il sait qu'il ne pourra pas revenir. Ce qui pose le problème aussi, c'est que les flux immigratoires devraient aller dans les deux sens. Et en France, l'immigré n'ose même plus partir en vacances.
Ils vont dans les deux sens en France. C'est qu'on on a quand même globalement une immigration subie et une immigration qui est problématique. Parce que c'est souvent des...
La plupart de nos immigrés, je pense notamment aux gens issus d'Algérie, de ce pays d'ailleurs dont l'identité est problématique. Faudra poser la question parce que je pense que les grands problèmes viennent aussi beaucoup de l'immigration algérienne. Parce que l'Algérie est une création française, on peut le dire.
C'est colonial,
avant ils étaient ottomans.
On aura l'occasion sûrement d'en parler.
Kabyle, ça veut dire quelque chose, mais un Algérien, je cherche toujours ce que ça veut dire. Et c'est absolument terrifiant de voir ces jeunes issus de l'immigration algérienne qui aujourd'hui ne sont plus rien, faut bien le dire. Enfin, ils ne sont plus rien. Ils sont ni français parce qu'ils vomissent sur la France. Ils se prétendent algériens par leur t-shirt, mais s'ils débarquaient demain à Alger, ils seraient frappés par la police.
Alors, quelques questions avant qu'on passe à notre deuxième partie. Une question pour vous, monsieur Boustier. Alors, il y en a deux. Que pensez-vous de Sainte-Geneviève et de la façon dont on a réglé le problème avec les uns? Là, on en arrive à la violence. Celle-ci qui peut être intéressante, quand on prend parti pour le communautarisme, on choisit, qu'on le veuille ou non, de livrer la France à l'immigration et de détruire l'identité nationale. Mais en même temps, ça c'est le paradoxe qu'on peut trouver énormément à droite, c'est-à-dire qu'on est contre le communautarisme, mais on nous explique que l'immigré, on va l'insérer. Mais en même temps, il y a une sorte d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on n'aimerait pas non plus qu'il y ait une mixité totale avec ses propres familles.
Donc, non, mais moi je répète ce que je dis. Enfin, c'est pas que je traite, parce que nous traitons tous autant que nous sommes des conséquences. Hein. Ou pour reprendre le mot de l'encyclopédie des nuisances, on gère un désastre. Comme disait Baudrillard, l'apocalypse n'est pas devant nous, elle est derrière nous. On est dans un paysage post-apocalyptique. Hein.
Non, oui, et en fait,
toute la question est aujourd'hui, soit on adopte Sainte-Geneviève, mais la méthode de Sainte-Geneviève aujourd'hui, c'est la décapitation de Daesh. Hein. On peut l'adopter, intellectuellement parlant, mais de toute évidence, personne n'est disposé à recourir à ces moyens. Donc, il faut choisir une autre alternative.
Hein. Moi, je pense que sur le débat sur immigration, communauté et communautarisme, c'est qu'il y a un problème en France. On n'ose pas dire ce que c'est que la France. Enfin, on est très nébuleux, on parle de la grande France chrétienne, et en effet, ça fait partie de l'identité française. Pour les républicains, ils parlent de Peggy, d'ailleurs, ils vont pas jusqu'au bout des textes de Peggy, mais on n'ose pas dire que, comme le disait quelqu'un que je n'aime pas pour beaucoup, comme le général de Gaulle, la France, ça se définit aussi. Je n'aime pas énormément de Gaulle, mais bon, ce n'est pas un débat sur de Gaulle. Enfin, j'aime le de Gaulle du 18 juin, mais j'aime moins de celui de 1962 et le fondateur de la 5e République. Mais bon, il disait dans ses, ce qu'était la France. Et on sent une gêne, que ce soit chez les catholiques, par exemple, ou chez certains amis souverainistes républicains, de dire « la France, c'est ça ». Donc la France, c'est européen, par exemple. La France, c'est j'aime pas trop le terme de race blanche, mais la France, voilà, c'est des gens qui sont d'abord européens. On ne peut pas être français. On ne peut pas être français quand on a n'importe quelle origine. C'est pas un choix, la France. Il y a quelque chose de l'ordre de la détermination, en quelque sorte.
Disons que j'arrête. Hein. Moi, j'ai introduit la notion de seuil critique, hein, et qui explique le basculement. Enfin, mon ralliement complet, mon basculement d'un assimilationnisme sous la troisième aujourd'hui mort. Hein. Le seuil critique, c'est on peut assimiler des populations. La question à partir de quel moment à partir de quelle cigarette le fumeur a un cancer, hein. À partir de quelle vitesse un véhicule fait un tonneau, à partir de quel seuil critique, de quelle masse critique, pardon, d'immigration une société implose, hein. Donc je considère qu'on peut la question de la globalement c'est plutôt un peuple de race blanche, mais avec des Antillais, des protestants, etc. Mais c'est le seuil critique qui.
C'est le juste équilibre à trouver entre.
Mais on a perdu
une définition.
Mais on a perdu l'équilibre puisqu'on est sorti. On est rentré dans le monstrueux. Pour, j'allais dire dans l'inhumain, mais c'est en fait on est rentré dans le monstrueux, dans la démesure. On s'imagine, les peuples sont. Moi, l'image de Parkinson est frappante. C'est que c'est les peuples qui ont la bougeotte. Hein, qui, selon l'ONU, 2 à 300 millions de gens sont. Surtout dans les pays du Sud, hein, mais c'est que ça n'a qu'un temps. Sont en train de se déplacer. Donc, il se passe quelque chose dans.
On en revient. À notre ami Raspail. Voilà, on va terminer cette première partie. Je rappelle, mais on le rappellera tout à l'heure, hein, que vous pourrez retrouver dans ce dossier, faut-il haïr le communautarisme, avec plusieurs articles d'Alain de Benoît et un entretien passionnant de Michel Maffesoli. On va faire une légère pause, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pendant quelques secondes, et on va se retrouver pour la suite, parce que Éléments, c'est quand même plus de 60 pages, avec tout le reste du sommaire. Retour pour cette deuxième partie des Chroniques de la Vieille Europe. Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie et j'ai le plaisir d'avoir dans le studio deux membres éminents de la revue Éléments, François Bousquet et Olivier François. Alors dans cette première partie, on a vu bien sûr effectivement le dossier « Faut-il haïr le communautarisme ?» Mais élément, ce n'est pas que ça. Et on commence, mon cher François Bousquet, parce qu'il y a eu, et on revient un peu au même sujet, cette façon de vouloir démontrer que la France, l'Europe n'existe pas. Ce fameux livre qui est sorti, qui a fait une petite polémique, mais où sont passés les Indo-Européens, qui a bénéficié par contre d'une campagne médiatique dithyrambique dans tous les journaux, mais personne n'avait vraiment envie de parler. C'est Jean-Paul de Moule qui décide de démonter, pour lui, les Indo-Européens. C'est un mythe. Alors, il est premièrement... Il est archéologue, c'est ça?
Il est archéologue, et encore, il a été le patron des fouilles archéologiques de France, qui est le plus gros chantier archéologie. Je veux dire, c'est 1000 chantiers à qui on doit énormément. Mais c'est l'historien soviétiforme.
Sa principale cible, ouais, c'est Jean Audry, qui était l'un des professeurs qui est un linguiste qui a travaillé sur les Indo-Européens. Alors, c'est quoi? C'est un gros pavé, en plus.
Je confesse que je ne l'ai pas lu, mais j'ai une expérience douloureuse du précédent livre de Demoule, consacré aux Gaulois, qui est dans du même ordre d'idées. Les Gaulois n'existent pas, les Gaulois étaient antiracistes, et en réalité, il y avait une très grande mixité ethnique en Gaule vers moins 50 avant Jésus-Christ. Dixit, Jean-Paul Demoule, de très grands mouvements migratoires, et cet historien est fascinant, de Demoule, et très inquiétant l'accueil dithyrambique de tous ses livres. Il n'a aucune compétence, manifestement, je n'en ai pas non plus, mais je m'en remets dans ces cas-là à Dumézil, à Audry, à des spécialistes des Indo-Européens et des études indo-européennes, avant de me prononcer sur le sujet. Lui n'a aucune compétence. Le même configuration s'était produit pour les Gaulois. Ce type est vraiment exceptionnel, quoi. Le négationniste dans toute sa splendeur, qui vous explique que, je parle du cas gaulois, mais on peut par analogie l'appliquer aux Indo-Européens, qu'en réalité les Gaulois sont un mythe inventé par... Évidemment, c'est un mythe, mais c'est un mythe...
Par la République, en plus.
L'Empire. Repris après. Mais c'était aussi une marotte. Il faut aussi prêter à la fantaisie des personnages historiques. C'était une marotte de Napoléon III. Évidemment, la République le reprend, le mythe gaulois. Mais c'est un mythe qui est encore antérieur, parce que chez les historiens, il y a une très grande dispute entre les tribus franques et puis les Français de souche de la Révolution, qui vont fournir les...
Qui se révoltent contre l'aristocratie franque,
gallo-romaine. Mais inversement, pour les Franques, ça a été une très longue dispute de l'historiographie française. Mais de Moule balaye ça d'un revers de la main et vous explique que jusqu'à lui, tous les historiens se trompaient et péchaient par idéologie, quoi, mais pas lui. Lui qui est un professeur d'antiracisme, qui nous explique, je le répète, mais c'est son truc sur les Gaulois est fascinant. On a l'impression de lire quelque chose écrit par SOS Racisme, à oublier, vraiment.
C'est quoi l'origine de cette obsession qu'il a à revoir l'histoire, à la réviser, etc.?
C'est un collabo.
Ce qui est étrange, c'est que ce livre sur les Indo-Européens de Jean-Paul de Moule, ça fait plus de 30 ans qu'il l'a commencé. Et grosso modo, il avait déjà sa thèse sur les Indo-Européens, alors que depuis 30 ans, même Jean Audry a dit, les choses ont énormément évolué depuis 30 ans, depuis les thèses de Dumézil. Mais lui, non.
Il n'a pas évolué, mais sa nullité est reconnue par tous les spécialistes.
Ce qui m'a marqué, simplement, François, sur les thèses de ce monsieur, c'est qu'en même temps, il l'essentialise et il caricature en plus les thèses de ses adversaires. C'est moi j'ai lu j'ai simplement en lisant un article évidemment élogieux sur ce livre dans Le Monde ou dans Libé, je ne sais plus, il déclare que les gens de la nouvelle droite imaginent que il y a une race indo-européenne, alors que Alain de Benoît Jean Audry ou la nouvelle droite n'a jamais dit qu'il y avait une race indo-européenne, il y a une civilisation indo-européenne
et en amont Dumézil,
bien sûr,
mais simplement sa nullité est patente, je vais aller t'attester, il suffit de le lire. Mais son succès recoupe un immense projet qui est le projet Najat Vallaud-Belkacem aujourd'hui. C'est en réalité, il faut séparer les Français de souche. Sous de souche, c'est une étiquette, comme l'a souligné Patrick, très élastique, puisque dans les deux souches, il y a plein d'Italiens, il y a
les Français européens, en fait. C'était une manière de le dire.
Oui, vraiment, c'est très large. Mais on veut nous séparer de nos racines. Et donc De Moule est un déconstructeur, mais comme quantité d'autres, lui il déconstruit le mythe. Évidemment, tous les peuples repentent. C'est le film de John Ford, Print the Legend, imprime la légende. Tous les peuples reposent sur un fond mythologique. Les Gaulois sont un fond mythologique récent de la France. Ben c'est cela qu'il faut déraciner, quoi, expurger.
Alors il y a plusieurs pages de littérature. On donnera un mot parce que vous avez fait une double page sur Virginie Despentes. Je ne sais pas si vous, François, si vous voulez en parler. Mais alors notre ami Olivier Melin qui a parlé de Georges Arnaud.
Georges Arnaud, c'est important.
Georges Arnaud, oui, c'est vrai.
C'était pas l'auteur parce qu'il malheureusement ce grand.
Alors Olivier, François, j'ai expliqué le problème de son nom.
Il y a Georges Arnaud qui est le saleur de la peur et voilà. Georges Arnaud dont parle Olivier Melin dans ce numéro, qui est un merveilleux écrivain de romans policiers, qui a écrit et de science-fiction d'ailleurs, qui a écrit plusieurs centaines de livres. D'ailleurs, Olivier Melin le compare à Simenon, ce qui n'est pas rien. Mais ce serait une sorte de Simenon un peu paranoïaque, avec notamment, moi je n'ai pas assez lu Georges Arnaud comme Olivier Melin, mais il faut conseiller notamment à nos éditeurs un recueil de textes de Georges Arnaud paru chez Omnibus, qui réunit un certain nombre de textes que Georges Arnaud écrit dans les années 70. C'est la grande paranoïa. C'est un écrivain paranoïaque. Où tout d'un coup, je cite un roman que j'ai lu qui s'appelle Un si joli petit monde, ou un petit paradis. Oui, un petit paradis. Où c'est une sorte de d'arrondissement où tout va bien, où on est entre gens de bonne famille, si je puis dire, et on s'aperçoit qu'ils sont tous des gangsters. En fait, ce monde, le monde le plus aseptisé, selon Georges Arnaud, cache les plus grandes crapules. Derrière, Georges Arnaud aurait pu écrire sur ce gouvernement, d'ailleurs.
Une question, Olivier. Le papier de Molin est une introduction à la Molin enlevée qui donne envie encore pratiqué.
Alors,
souligne une dimension d'une critique prémonitoire de l'écologie, du progrès.
Alors ça se voit parce qu'il est contre ce que Henry Miller appelait le cauchemar climatisé. En général, ce que j'ai lu de Georges Arnaud, c'est-à-dire c'est surtout ces grands romans policiers des années 70, c'est le cauchemar complotiste. C'est le cauchemar climatisé. Là, j'emploie le terme d'Henry Miller. C'est cette société fermée où tout va bien, où il n'y a pas de soucis, où il n'y a plus de conflit, où il n'y a plus d'identité, où on est tous des bourgeois, soi-disant. Et là, tout d'un coup, vient le drame. Parce qu'une société sans conflit, sans identité, ça ne marche pas. Et Georges Arnaud, de ce point de vue-là, me semble intéressant. Une autre personne qui m'a parlé de Georges Arnaud, et les auditeurs de Radio Courtoisie ne le connaissent, c'est Alfred Ebel. Alfred Ebel m'a dit, pour comprendre ce qu'est la province française entre 1950 et 1980, il faut lire Georges Arnaud. Dire à la fois un monde finissant, le monde qu'on peut trouver un peu chez Chabrol, et en même temps la disparition d'un certain nombre de codes, de rites, d'élégance, de mode de vie, etc., de mœurs.
Et outre cela, mais j'en parle sur la base de ce qu'écrit Olivier Molin, c'est que c'est un auteur de science-fiction.
Malheureusement, cher François Bousquet, je n'ai pas lu encore je n'ai lu que les romans policiers de Georges Arnaud. Donc,
on a fait de lui la Tour Eiffel de la science-fiction. Donc c'est dire.
Non, mais donc c'est un auteur très important. Et les quelques livres de Georges Arnaud que j'ai lus m'ont en effet tout à fait impressionné. Je pense qu'on peut le mettre au niveau d'un Pierre Signac ou d'un Georges Simenon. Et c'est ce que rappelle Olivier Molin. Et Alfred Ebel dit qu'en effet, pour comprendre une certaine France disparue aujourd'hui, qui s'est éteinte dans les années 70, il faut lire Georges Arnaud, donc grand écrivain, mais ça ne nous étonne pas du camarade Molin, qui est non seulement un grand écrivain, mais aussi un grand critique littéraire. Les lecteurs du spectacle du monde s'en souviennent.
Oui, parce qu'il faut voir que Georges Arnaud fait partie de ces on peut le dire, c'est le mauvais genre de la littérature. C'était ces romans de gare qui étaient faits. Il en a écrit plus de 400, mais il a su mettre, d'après ce que dit Olivier Molin, il a su mettre, que ça soit dans la science-fiction, le polar, parce qu'il est, c'est de la commande. Il a su mettre de la vraie littérature, comme l'avait fait Simenon.
Évidemment. Et ce qui me semble intéressant d'ailleurs, c'est pas d'ailleurs la première fois dans Éléments qu'on évoque ce genre d'écrivain, mais il me semble qu'à partir des après 45 et surtout après le nouveau roman, un certain nombre de grands écrivains se sont réfugiés dans la littérature de genre. Et ça vaut d'ailleurs en France, on peut parler de Georges Yarnaud, mais de Pierre Signac, même quelqu'un comme Manchette est tout à fait intéressant malgré les critiques qu'on peut lui faire. Ça vaut, à mon avis, aussi dans le pays anglo-saxon. Quel plus grand écrivain que DJ Ballard, pour comprendre ce qu'est la postmodernité, la modernité, il faut lire Ballard. Et donc il y a une sorte de littérature qui est apparemment souterraine, mais qui me semble être réellement les héritiers de la grande littérature du 19e, et même dans la recherche formelle, par exemple un Ballard crée des formes, alors qu'une certaine littérature officielle, aimé de grand, enfin à la fois du grand public ou de pseudo avant-gardistes, en fait répète toujours les mêmes choses
que des procédés. La liberté s'est souvent réfugiée dans les marges,
La liberté
et les marges en littérature, c'est les gens dits mineurs, en effet,
c'est les gens apparemment
c'est un éloge qui vient de la part de quelqu'un qui émet les plus grandes réserves sur le polar, mais
et ça vaut d'ailleurs, mais ça fait pas le, mais je me permets d'en parler. Ça vaut aussi pour l'art contemporain, parce que Jean-Claire a montré que aujourd'hui un certain art contemporain réel, vivant, et qui continuait d'ailleurs à explorer la figuration, etc., se retrouvait davantage dans l'art brut que dans le conformisme et la répétition d'un Damien Hirst ou des épigones de Duchamp qui ne font que répéter le ready-made.
Voilà, donc si vous voulez découvrir Georges Yarnaud, le parano de génie, le Balzac des fauchés et des sans-grades, lisez cet excellent article d'Olivier Molin. Alors en littérature, il y a aussi, je le cite simplement, Laurent Champ, qu'on avait eu il y a 2 mois au téléphone, qui a sorti cet inédit formidable de Jean Babir sur le capitaine Dorrit, le Jules Verne militaire. On avait eu Laurent Champ à ce propos. Et puis alors, en plein milieu entre ces deux auteurs populaire, mon cher François Bousquet, vous avez fait une double page sur le dernier Virginie Despentes. Qu'est-ce qui vous a pris?
Encore pas les marges, parce que là c'est une marge.
C'est l'underground dans la
officielle.
Officielle, et puis au sens de ce qu'il y a, c'est vraiment la créature du souterrain qui est désormais en pleine lumière. Pourquoi avoir parlé de Virginie Despentes? Parce que elle fait des succès pas aussi importants que Michel Houellebecq, mais pas loin. Qu'elle est en un sens une déclinaison féminine et restée à gauche, ce qui n'est plus le cas de Houellebecq, très proche des inrecuptibles. Bref, que derrière le phénomène littéraire, il y a un phénomène de société, et qu'en tant que tel, il appelait une interprétation. Le bouquin qui est chroniqué, c'est Vernon Subutex, qui est le premier volet d'une trilogie. Pour rappel aux auditeurs, Virginie Despentes est l'auteur de King Kong Theory, et son premier livre, Baise-moi, qui est un appel au viol, a eu un succès de librairie, pas d'estime, de librairie. Donc à titre de symptôme, il faut autant que faire se peut s'intéresser à la folie qui s'emparait de notre monde et des gens, des auteurs qui leur transcrivent.
Il y a une chose qui m'a fait rire, c'est que vous dites qu'elle a quand même une certaine honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire qu'elle...
Elle commence à reconnaître qu'on peut être de droite intelligent. Venant d'où elle vient, c'est énorme. Le seul problème, c'est qu'on peut pas que la flinguer, malheureusement. C'est qu'il y a un début de talent littéraire, malheureusement. En tout cas, dans le dernier, c'est un panorama, je le compare moi à un traité d'ethnographie. Alors évidemment, sans aucun recul critique, elle se prend pour Flaubert, elle n'est pas Flaubert. Hein. Pour autant, elle cultive la veine ouverte par Flaubert, des Frédéric Moreau, de l'avènement du raté en littérature. Hein. En fait, de l'avènement du raté dans les sociétés, dont le romancier et le scriptographe que le retranscrit. Elle a un brin de talent, mais simplement, la chose intéressante dans ce livre-là, c'est que c'est un traité, alors évidemment, élogieux, mais c'est la plus belle galerie de bobos que j'ai pu lire. Hein. Alors, voilà.
Si les auditeurs ont du temps à perdre. Hein.
Voilà. Non, mais en tout cas, votre article qui est quand même intéressant.
Qu'ils lisent éléments.
C'est un phénomène, quoi qu'on en pense, là-dessus. Alors, on va retrouver, je tourne en même temps devant le micro ce magnifique journal. Il y a un énorme article sur faut-il brûler les juges de la Cour européenne des droits de l'homme par Félix Morès. Là, on a vraiment une description et ça suit un peu le travail que Félix Morès avait fait sur l'Europe. On revient, le rédacteur en chef, Pascal Essery, qui revient sur le Michel Onfray contre tout, contre la nouvelle droite. C'est la fameuse polémique. François Gousquet.
Un mot sur Cosmos. Alors là, on passe de Dépente à Cosmos. Hein.
Cosmos, qui est le dernier livre.
Ouais, Cosmos, le dernier livre de Michel Onfray. Autant Virginie Dépente peut être lu à titre de curiosité zoologique, hein. Sociologique, je l'ai déjà évoqué, mais également zoologique. Le dernier livre de Michel Onfray, qui ouvre lui aussi une trilogie, Cosmos, donc en l'occurrence, hein. Je n'ai jusqu'à ce jour lu que le préambule, qui fait une quarantaine de pages, qui est consacré à la mort du père, hein. Mais je n'en parle pas sans émotion. C'est depuis Giono, on n'avait pas lu quelque chose d'aussi beau sur la piété filiale. Depuis Giono, depuis des gens comme Virgile, la mort du père est bouleversante. Le père mort comme un chêne dans ses bras, un chêne foudroyé. Il y a une scène où son père est fasciné par les Esquimaux. On ne sait pas si ça colle à cause de Paul-Émile Victor ou de, j'ai plus le nom, du grand explorateur français de la fin du 19e, début 20e. Et il va, c'est notre sujet, il va au Groenland et il tombe sur des Esquimaux totalement déculturés, totalement américanisés, obèses. Hein. C'était il y a 5-6 ans. Et Dieu merci, il y a un vieil Esquimau en qui le père de Michel Onfray se retrouve. Hein. La scène est mémorable. C'est un chef-d'œuvre, s'il me semble être l'une des définitions de l'âme européenne, qui pour moi est païenne et chrétienne. Et il me semble que le père de Michel Onfray, en écho au père de Giono, le père de Giono était chausseur cordonnier, le père de Michel Onfray ouvrier agricole. Le livre est vraiment somptueux, quoi. Le début du livre est somptueux. J'en parle presque. On peut pas ne pas en parler sans émotion.
Donc c'est le dernier Michel Onfray, Cosmos, Flammarion, 22,90 euros. ça c'est Rémi Soulier qui a
c'est
fait.
Rémi Soulier, très bel article.
Qui a fait un très bel article et Pascal Cyril, qui lui en tant que journaliste est revenu sur cette polémique où il explique que quand même tout le mécanisme qui est assez drôle et assez intéressant.
Et puis la folie de cette polémique. Enfin c'est.
Oui.
Il suffit de citer un nom pour qu'un premier
ministre. Alors il nous reste quelques minutes. Olivier François, j'étais très déçu. Vous n'avez pas beaucoup écrit.
Non.
Alors, par contre, vous avez rendu un livre de Boris Souvarine, La tragédie des lettres russes. Juste peut-être un mot de vous.
Oui, d'ailleurs, j'y reviendrai Boris Souvarine par le biais d'un de ses amis qui était Pania Distrati, mais Boris Souvarine est un des plus grands témoins du siècle, du 20e siècle, et du totalitarisme communisme. Ce qui est intéressant, et ce que je remarque dans mon article, c'est que les premiers à l'avoir dénoncé, ce totalitarisme communiste, l'ont fait au nom d'un rêve socialiste et du socialisme révolutionnaire. Ce n'étaient pas des bourgeois, de droite, effrayés par des pelotons d'exécution. Quelqu'un comme Boris Souvarine assumait les crimes de la commune. J'aimerais rappeler aux auditeurs que d'ailleurs les prêtres et les évêques de la commune étaient que les communards en fusil étaient souvent des prêtres progressistes. Mais c'est intéressant ce texte que a publié Pierre-Guillaume Deroux est merveilleux car c'est une sorte de requiem pour tous les écrivains. On peut les citer, Boris Pignac, Isaac Babel, André Bielli, qui traverse un petit peu ce texte de Boris Souvarine, Alexandre Bloch, Maxime Gorki, qui ont été les victimes de cette grande tyrannie stalinienne, léniniste et stalinienne, et communiste et soviétique. Et voilà. Et je pense que malheureusement, ce texte publié par Pierre-Guillaume de Roux, qui nous est cher, a été trop peu commenté dans les médias, et c'est un grand témoignage à la fois sur ces écrivains persécutés et aussi plus largement sur comment une tyrannie s'installe. Et je pense qu'il faut lire Souvarine, il faut lire tous les textes de Souvarine, son Staline, notamment son Staline, qui est pionnière et une œuvre magistrale. Mais aussi, il faut savoir que Souvarine a été un des grands témoins de ce siècle, a connu les gens dont il parle, hein, puisqu'il était un des fondateurs du Parti communiste et puis ensuite désabusé par l'horreur soviétique. Donc j'ai voulu trop brièvement, certes, mais rendre hommage à Boris Souvarine, et je reviendrai dans Éléments, j'espère, sur Souvarine et sur ses premiers dénonciateurs.
Autre article qui va faire encore grincer des dents, parce que j'ai reçu des messages, François, sur notre prise de position en faveur du communautarisme, alors qu'on ne fait qu'un constat. Votre position en faveur du communautarisme est digne du roman des camps des saints. Elle relève de la collaboration avec l'ennemi. Voilà, mon cher François.
Quel ennemi ?
On est habillé pour l'hiver. Et un très bon article que l'on retrouvera, c'est le jour où l'on reconnaîtra l'État islamique, de Gilles Munier. Gilles Munier, qui est le secrétaire général des amitiés franco-irakiennes, et qui explique clairement que c'est un État qui est en train de s'installer, qu'un jour ou l'autre, il va falloir le reconnaître.
Ouais, qui pose le même problème que l'Algérie. C'est que,
exactement.
C'est en fait c'est
un État qui se fonde aussi sur la haine des identités orientales aussi.
Mais qui recoupe la zone de peuplement sunnite, hein, d'Irak et de Syrie.
Et c'est 10 millions de personnes qui vont pas les chines courbées obéir aux ordres de l'État islamique. On retombe sur les configurations post-coloniales, quoi.
Et donc, un jour ou l'autre, je pense que Gilles Munier, on lui donnera raison.
Et donc, de nouveau, sur le fait communautaire.
Sur le fait communautaire. Voilà, juste, il nous reste quelques minutes. Je vais juste, pendant que il y a François qui est en train de piquer mon numéro, je vais faire deux ou trois annonces. Alors, la revue Éléments organise, alors ça c'est pour les Niçois, alors je sais que Radio Courtoisie n'est pas écoutée que par la région parisienne, mais que beaucoup sur Internet et beaucoup de gens du Sud nous écoutent. Si vous habitez dans la région de Nice, la revue Éléments organise un débat, pas un débat, c'est une prise de position. Les écologistes sont-ils tous débiles? Ou comment faire de l'écologie sans les écologistes? Là, on a affaire à du... ça va, à mon avis...
ça va être saignant.
Ça va être saignant.
Surtout avec Molin.
Avec, effectivement, Olivier François, c'est Olivier Molin et Solange Biette Charton, qui sont deux écrivains. Olivier Molin qui a sorti comme dernier livre le Gueule de bois, et Solange Biette Charton qui est la petite écrivaine, on dit
écrivain, non écrivain, oui. et Solange Biette Charton suffira, et c'est un écrivain.
C'est un écrivain qui a son dernier roman qui était sorti l'année dernière, Nous sommes jeunes et fiers, aux éditions Stock. Donc ils vont vous parler écologie. C'est à la Maison des Associations Garibaldi, 12 Terre Place Garibaldi à Nice. C'est le mercredi 6 mai 2015 à 19h. Et juste pour compléter, parce que c'est toujours sympathique là-dessus, si on parle du communautarisme dans Éléments, Thibault Isabelle, le rédacteur en chef de Crisis, avec Alain de Benoît, ont sorti le numéro 40 de la revue Crisis, qui est sur l'identité. Donc je trouve qu'il se rejoint. Et puis... on a parlé de l'Iliade et la revue Livre Arbitre qui fait un travail formidable sur la littérature a fait un numéro hors série. Ils étaient sur le colloque de l'Iliade et ils ont repris les textes qui ont été cités dans la de Benoît, Jean-François Gauthier, Rémi Martin, Javier Portela, Christopher Gérard et beaucoup d'autres, et ont fait un travail remarquable. Donc cette petite revue que l'on trouve, si je vous trouve l'adresse avant qu'on termine, ça va être une vraie catastrophe. En tout cas, si vous faites Livre Arbitre, à mon avis vous trouvez ça sur Internet, vous faites ça sur Livre Arbitre,
Et vous pourrez commander le hors-série numéro 2. C'est simplement 8 euros et
ça vaut le coup.
Et ça vaut le coup. et c'est et Xavier Aimant qui devait être avec nous ce soir et on lui fait un petit coucou. Je sais qu'il est malade. Donc
on peut consulter sur le site de Livre Arbitre.
Livre Arbitre. Eh ben voilà. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. On se retrouve dans 4 semaines. D'ici là, écoutez toujours Radio Courtoisie.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't
always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Look on the right side of life.
Come on, Brian, cheer up.
Always look on the right side of life. Always look on the right side of life.
Where's things happen to see, you know?
Always look on the right side of life.
What you gotta lose? You know, you come from nothing, you're going back to nothing. Come from nothing, you know what I say?
Oh,
cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us might live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place off there. And change this mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? Never made the money back. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.